Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous avons entendu ces paroles de saint Paul, l'apôtre qu'il adresse aux Corinthiens, « Comme Adam est fait d'argile, ainsi les hommes sont faits d'argile. Comme le Christ est du ciel, ainsi les hommes seront du ciel. » Les hommes seront du ciel. Nous serons, si nous sommes sauvés, du ciel. Nous sommes déjà, dès ici-bas, si nous le voulons bien, en nous laissant travailler par la grâce de Dieu, du ciel. Agir en disciple de Jésus-Christ, en chrétien, c'est être un homme, une femme du ciel. Le ciel, c'est l'achèvement de la transformation de notre humanité, cette transformation qui s'ébauche, ce travail de la résurrection de notre personne, qui s'ébauche lorsque nous recevons la grâce divine. Mais la perspective à l'horizon, notre espérance, c'est d'être un jour totalement conformé au Seigneur. Christo-conformé, comme on dit en théologie. Agir en petit Christ. Chrétien, c'est un petit Christ, un chrétien. En petit Christ ou en grand Seigneur, c'est la même chose. Si nous voulons ressembler à notre Seigneur, il faut agir en grand Seigneur, agir en ressuscité. C'est-à-dire imiter cette générosité sans borne du Très-Haut, qui est bon, le Seigneur, pour les ingrats et les méchants. C'est entrer dans la démesure de son amour inconditionnel, qui ne fait exception de personne, qu'aucune ingratitude ne lasse, comme dit la belle prière. Et voyez, cela, la vie des saints l'illustre au cours des siècles. Ce sont des hommes et des femmes qui épousent dès ici-bas les mœurs divines, les mœurs célestes, avec des façons d'agir qui sont prophétiques et désarmantes pour ceux qui en sont les témoins, qui frappent les esprits. Ce sont des professions de foi en 3D. Un exemple parmi des millions, peut-être des milliards, de cette démesure de l'amour qui ne se dégonfle pas, qui va au-delà et qui est désarmant. Jeanne Jugan, elle est de notre pays, une bretonne de Cancale au XIXe siècle, qui a fondé les Petites Sœurs des Pauvres. Je pense que vous la connaissez, un géant de la charité. Vous la connaissez, Jeanne Jugan? Oui, bon. Dans sa méthode, elle allait quêter, mendier dans les rues pour les pauvres. Avec beaucoup de courage. Il faut du courage pour mendier pour les pauvres. Elle allait solliciter la générosité en général, surtout qu'elle avait une réputation qui commençait à la précéder. Elle était bien accueillie, mais parfois, quand on agit au nom du Seigneur, on se prend aussi des camouflets. En l'occurrence, elle se prend carrément un coup par quelqu'un qui la repousse violemment dans la rue. Vous savez ce qu'elle répond? Ça, c'est prophétique, ce genre de parole. « Mon bon monsieur, ce soufflet, il est pour moi. D'accord? Maintenant, est-ce que vous pouvez me donner pour les pauvres ?» C'est magnifique. Elle l'accueille pour elle. Et l'homme a été désarmé par cette audace, cette profession de foi de la charité. C'est très beau. Et ça, ce sont des Fioretti, on en trouve beaucoup dans la vie des saints. On sent qu'ils sont animés par un amour qui les embrase et les dépasse. Et frères et sœurs, en réalité, la première alliance, déjà dans l'Ancien Testament, contenait des invitations à dépasser la mesure de la loi du talion, œil pour œil, dent, à aller plus loin. Nous avons entendu cet extrait savoureux dans le livre de Samuel, vous l'avez entendu en première lecture. C'est plein d'enseignements, ça nous apprend comment surmonter une tentation très commune qui peut se présenter pour chacun d'entre nous, sous bien des formes, lorsqu'on a subi telle ou telle grave injustice, et que se présente à nous une occasion, servie sur un plateau, de régler radicalement la question. C'est-à-dire d'humilier ou de supprimer une personne qui s'est fait notre ennemi. On se dit, c'est le Seigneur qui me fait justice, je vais en profiter. On pourrait révéler au grand jour tel usurpateur, par exemple, tel voleur, tel menteur, il suffirait, on a l'occasion, elle est pour nous, de prononcer un mot, de publier telle image, d'envoyer un petit message, et c'est réglé, pour anéantir l'injustice subie en un clin d'œil. Comme c'est bon. Merci Seigneur de me permettre de faire justice. Je peux saisir l'occasion. Ça s'appelle, dans notre vie, chers amis, la tentation d'Abishai, qui dit, la lampe, il dort, on y va, un coup de lance dans l'œil, dans la tête de Saül, et c'est réglé. Pourquoi hésiter? Vous avez vu le cœur noble de David. La tentation d'Abishai qui nous guette dès que le vent tourne en notre faveur, fût-ce à la faveur d'une petite brise légère. La tentation de prendre sa revanche de la façon la plus juste qui soit. C'est peut-être une des tentations les plus brûlantes que nous ayons à subir. Lorsque j'ai le pouvoir d'anéantir, d'humilier, de remporter une victoire éclatante sans le moindre effort. Mais le cœur noble de David, qui sait avoir un cœur noble à ses heures, il décide de remporter une victoire supérieure. Quelle est-elle, frères et sœurs ? Celle qui consiste à faire grâce, à être un grand seigneur à l'image de notre Seigneur, dans la conscience que Dieu seul fait grâce, que Dieu seul juge, et que Saül appartient à Dieu en premier lieu, c'est son consacré, c'est son oint, c'est son messie, dans la conscience aussi d'être soi-même gracié, que le Seigneur est grand Seigneur à mon égard et à l'égard de tous, et de me montrer digne de lui en me faisant grand Seigneur à l'égard de tous. Chers amis, être chrétien, c'est trouver la force de planter la lance ailleurs que dans le cœur de mon ennemi. C'est espérer blesser mon ennemi, mais d'une blessure de charité que ma lance, plantée à portée de vue, voudrait provoquer. C'est la pédagogie de David qui se brandit la lance de loin pour lui montrer « Voilà ce que j'aurais pu te faire et que je ne fais pas, à quoi je renonce, car je laisse Dieu te juger, comme c'est noble. » Jésus, dans la Nouvelle Alliance, manifestera au plus haut point la miséricorde divine, non seulement en retenant le courroux de son Père, mais plus que cela, chers amis, en prenant sur lui la violente folie des hommes. Sa croix, c'est notre paratonnerre. Je pense à ce que Jésus dit à Pierre, alors que le Seigneur entre dans sa passion, « Rengaine ton glaive. Pense donc que je ne puisse pas faire appel à mon Père qui me fournirait sur le champ plus de douze légions d'anges. » C'est un peu plus que l'armée de David, hein. Et le coup de lance, c'est lui qui le recevra pour nous. Du sang et de l'eau jailliront de son côté ouvert, nous offrant un inépuisable signe, celui du cœur transpercé. Signe ultime, le sacré cœur de Jésus, qui proclame jusqu'à la fin des temps la violence dont notre grand Seigneur nous a épargnés, s'étant exposé à notre place. Jésus, le nouveau David, nous introduit dans la nouvelle alliance, celle de l'esprit de charité répandu sans mesure depuis son cœur jusqu'au nôtre, si nous le voulons bien. Et voyez, cette faiblesse consentie, incompréhensible pour le monde, ce renoncement, nous croyons qu'il relève non pas d'une faiblesse, mais d'une puissance supérieure. Nous croyons qu'elle exprime une force incroyablement supérieure et déterminante. Mais ceci a deux conditions. Ce n'est pas simplement se soumettre comme ça, bêtement, de faire les nunuches, la mauvaise interprétation, non, il faut éteindre notre joue, voyez ça, la mauvaise interprétation. Car cette soumission, ce renoncement, il a deux conditions. D'abord, cette faiblesse apparente, elle doit être professante. C'est-à-dire qu'elle doit faire comprendre, elle doit être un signe prophétique. David le fait comprendre à Saül. Il aurait pu l'épargner sans rien lui dire. Non, il souhaite être pédagogue et sauver l'âme de Saül. Il faut donc que Saül comprenne qu'il fait l'objet de la miséricorde. De même, Jésus Notre Seigneur a annoncé sa crucifixion, le mystère pascal, a préparé les cœurs au cours de 3 années d'enseignement. Il n'y a pas d'ambiguïté. L'amour chrétien est déclaratif. Il dit qu'il fait grâce. Il met sa joie dans la vérité, dira l'apôtre Paul. C'est nécessaire pour que la grâce accordée soit l'occasion d'une conversion. Aimer ses ennemis, c'est désirer pour eux le salut et donc la conversion. Les aimer jusqu'au bout, c'est désirer qu'ils se tournent enfin vers le Seigneur. Deuxièmement, cet amour, il est ambitieux à l'égard du mal dont il souhaite l'anéantissement. La vie chrétienne, frères et sœurs, ne consiste pas seulement à désarmer habilement ses ennemis. Aimer inconditionnellement n'est pas une technique pour se protéger ou pour brouiller les pistes, pour échapper aux mains de l'adversaire. C'est aussi un combat qui cherche la délivrance et l'anéantissement du mal. Il faut que le Christ règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. C'est une parole de Dieu qu'on n'entend pas souvent et qui est pourtant juste avant le passage que nous venons de lire. Dans notre vie chrétienne, il y a un combat qui consiste à poursuivre le mal et à l'anéantir. Pas seulement sauver notre peau, mais lutter contre l'injustice et le mal, y compris dans la dimension sociale et politique. Frères et sœurs bien-aimés, oui, je le redis, agir en chrétien, c'est agir en Seigneur, en Fils du Très-Haut, avec un cœur noble et généreux, comme dit saint Luc. C'est se reconnaître pour cela humblement surendetté d'amour envers le Seigneur et agir en Seigneur en remettant toute dette d'avance. On se sent sans doute indigne d'agir en Seigneur, nous qui sommes si dissemblables à lui, incapables d'aimer comme lui, en tout cas moi. Alors dans ce cas-là, puisque nous ne pouvons pas faire comme lui, aimons par lui, avec lui et en lui. Et cela en recevant la Sainte Eucharistie dans notre cœur purifié par le sacrement de la miséricorde. Croyons alors, de dimanche en dimanche, pour ne pas dire de jour en jour, que le Très-Haut transforme progressivement, de communion en communion, les hommes de la terre que nous sommes en hommes du ciel. Et que nous apprenons alors à aimer de cet amour démesuré et même infini dont nous espérons aimer un jour éternellement. Amen.